l'écoute de RFI, 19h30 à Paris, N'Djamena, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
C'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir du dernier jour de l'année. Elle vous est présentée par Pierre Bourdias. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Polémique autour du déroulement des élections tchadiennes. Un consortium d'observateurs de la société civile dénonce des irrégularités lors du vote de dimanche. L'Agence nationale de gestion des élections assure ne pas avoir connaissance de ces incidents. La situation politique en Guinée au cœur du dossier d'Afrique Soir. La transition censée se terminer ce soir, repoussée à une date inconnue. Dans ce contexte, le procès de l'opposant Aliou Ba a été reporté au 2 janvier. Trois étoiles et un baobab sur fond de soleil éclatant. C'est le logo choisi par l'Alliance des États du Sahel. Mali, Niger et Burkina Faso se dotent également d'une devise, un espace, un peuple, un destin. Et puis ça va pétarader ce soir au Sénégal. Pétard et feu d'artifice, incontournable bande-son du nouvel an dans le pays. Alors à quelques heures d'allumer les mèches, les Dakarois faisaient l'inventeur de leur stock. Reportage en fin d'édition. Toujours pas de résultats, mais des réactions deux jours après le triple scrutin tchadien. Des élections législatives, municipales et locales entachées de nombreuses irrégularités et fraudes dans le pays. C'est en tout cas ce que conclut un consortium d'observateurs locaux ce mardi. La Ligue tchadienne des droits de l'homme, l'Alliance citoyenne pour les élections au Tchad et l'Observatoire des associations sur les processus électoraux avaient déployé 2000 observateurs dans tout le pays. Écoutez Gombo Braise Ouzinben, il est le chef de mission de l'OAPET.
J'ai constaté dans le 7e arrondissement où il y avait un groupe de femmes qui sont transportées par un candidat. Il faut le nommer, le candidat du MPS qui les transportait d'un bureau de vote à un autre bureau de vote. Qu'est-ce que ces gens faisaient? Si ce n'est pas pour aller bourrer les urnes. Cette pratique nous a été rapportée par nos équipes dans le 8e, également dans le 6e. Bref, partout sur le territoire national, à Abéché, où on a surpris, dans une maison, les gens avaient des bulletins vierges qui remplissaient au nom du MPS. Dans le Fitri, le président du bureau de vote a été surpris en train de bourrer les urnes pour le compte du MPS, ce qui a suscité la colère des autres candidats, et ça a mal tourné. À Moundou, les électeurs se sont rendus compte à l'heure de déploiement que les urnes étaient déjà remplies d'avance et ils ont dû brûler ces urnes. Ça ressemblait à tout sauf une élection crédible.
Et propos recueillis par Victor Moria, notre correspondant qui a également contacté l'Agence nationale de gestion des élections. Elle a organisé le scrutin et elle assure que ces accusations de fraude n'ont pas été signalées à ses services. Ahmad Bachiré est président de l'ANJ.
Nous n'avons reçu aucune plainte d'un parti politique quel qu'il soit, que ce soit le MPS ou que ce soit les autres partis. Donc, à partir de ce moment, nous, on a retenu que ces élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Moi, personnellement, je pense que c'est une réussite. Il y a des pressions des partis politiques, ça existe. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de pression du tout. Bon, il y a eu quelques petites pressions. Oui, on voudrait que le candidat, pourquoi celui-là, son bulletin n'a pas été mis de ce côté, pourquoi c'est mis de l'autre côté. Bon, ça, c'est des petits incidents qui sont réglés immédiatement, automatiquement, par les démembrements même de l'ANJ sur place, qui ne sont même pas remontés jusqu'à l'ANJ ici à N'Djamena, parce que bon, c'est des petits incidents qui sont circonscrits sur place.
RFI, il est 18h33 à Conakry. Le dossier d'Afrique Soir nous emmène en Guinée où l'opposant Aliou Ba va bien retourner en prison. Ouvert ce matin dans la capitale, le procès du président du parti modèle a été renvoyé au 2 janvier prochain. Aliou Ba a été arrêté la semaine dernière à la frontière sierra-léonaise alors qu'il se rendait à la capitale Freetown. Il est poursuivi pour offense et diffamation envers le chef de l'État. Cette voix, parmi les plus fortes critiques de la junte du CNRD, rejette en bloc les accusations portées contre lui, Sidi Yansané.
C'est avec des extraits des nombreuses vidéos publiées sur ses réseaux sociaux que le ministère public justifie les poursuites contre Aliou Ba. Durant cette première audience, le tribunal de première instance de Kaloum a diffusé les vidéos concernées dans lesquelles l'opposant dénonce les kidnappings en série ainsi que le silence des guides religieux sur la répression généralisée en Guinée. Mais selon ses avocats, aucun propos offensant ou diffamatoire contre le président de transition Mamadi Doumbouya n'a été prononcé par Aliou Ba. Maître Pépé Antoine Lama considère ce procès, je cite, comme une cabale pour faire taire son son client en utilisant le fallacieux prétexte d'offense au chef de l'État. L'avocat parle d'un procès politique et d'une détention arbitraire d'Alyouba en expliquant que plusieurs dysfonctionnements entachent la procédure judiciaire et ce dès l'arrestation de l'opposant. La défense d'Alyouba ne voit pas d'autre issue que sa relaxe pure et simple jeudi prochain.
Sidi Yansané, cette situation guinéenne préoccupe de nombreux observateurs régionaux et internationaux. Parmi ces voix qui s'élèvent pour appeler à remettre la transition sur les rails, celle d'Achille Mbembe, président de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Dans un communiqué publié suite à l'arrestation d'Alyouba, il juge la situation dans le pays alarmante. Écoutez-le, il répondait aux questions de Nicolas Sur dans Afrique Midi.
Le colonel Doumbouya a pris le pouvoir par la force en 2021. Il a promis à l'époque de rendre le pouvoir aux civils en 2024. Tout indique que cette promesse ne sera pas tenue, alors même que s'ouvre une intense période de répression, tous azimuts, qui s'est traduite par l'arrestation récente de M. Alyouba, l'un des principaux leaders de l'opposition guinéenne.
Et également des militants de la société civile, Foninke Menge et Mamadou Biloba, dont on est sans nouvelles depuis le mois de juillet.
On est sans nouvelles depuis le mois de juillet. Enlèvement, arrestation arbitraire, détention, pratique de la torture dans certains cas. On avance en Guinée vers une direction assez troublante qui ressemble à s'y méprendre à l'époque que la Guinée a connue lors du régime sanguinaire, il faut le dire, de Sékou Touré.
La Guinée n'est pas le seul pays concerné. Vous parlez de répression croissante, notamment dans les régimes militaires de toute la sous-région africaine, répression de toute voix dissidente. En matière de respect des droits et libertés, l'année 2024 marque-t-elle pour vous un tournant ou une accélération dans ce domaine ?
Je trouve que les choses sont à la fois simples et complexes. Elles sont simples dans la mesure où l'espace des libertés fondamentale et publique est en train d'être rétréci à la fois dans les régimes militaires sahéliens et les régimes autoritaires de l'Afrique atlantique. Dans ces conditions, le cas de la Guinée en particulier, il faut que le colonel Doumbouya ait le courage de créer les conditions d'un dialogue. Ce dialogue suppose que soient bâtis des compromis pour que, ensemble, le peuple guinéen puisse trouver une issue inclusive à la transition. On ne peut pas trouver cette issue si, effectivement, la stratégie consiste à arrêter, à détenir de façon arbitraire les opposants, à en enlever un certain nombre et à briser, en tout cas, le peu de légitimité que ce régime détient au regard du peuple guinéen.
Un entretien et un dossier à retrouver sur www.rfi.fr. Au Sénégal, Cheikh Oumar Diagne finalement limogé, celui qui avait récemment qualifié les tirailleurs sénégalais de la Seconde Guerre mondiale de traîtres, a été exclu du gouvernement ce mardi par le président Bassirou Diomaye Faye. Si les raisons n'ont pas été précisées, la sortie réitérée malgré la polémique avait provoqué la colère des associations des familles de descendants de ces combattants. Le 26 décembre dernier, le porte-parole du gouvernement avait également fustigé ses propos, estimé que les tirailleurs étaient des héros nationaux. Un baobab, un soleil, trois étoiles, l'Alliance des États du Sahel possède désormais son logo officiel. L'AES s'est également dotée d'une devise, un espace, un peuple, un destin. Ces nouveaux attributs de l'organisation formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont été validés et dévoilés hier soir par les autorités militaires des trois pays avec des communications officielles dans les médias d'État. Alors comment lire et comprendre ce logo et cette devise ? Élément de réponse avec David Baché.
Le cercle orange, c'est le soleil du Sahel. Sous les branches protectrices du baobab, des silhouettes expriment la diversité et l'union des populations. Les trois étoiles dorées représentent enfin les trois pays alliés, Mali, Niger et Burkina. Un espace, un peuple, un destin, la devise de l'AES se veut fédératrice. Soumaïla La est enseignant-chercheur et analyste politique à Bamako.
Dans l'absolu, c'est une très bonne chose, mais sauf que ces trois États, et de façon particulière le Mali et le Burkina, ont eu des différends à des moments donnés de l'histoire. Dire que c'est le même peuple, le même destin, je ne le pense pas. Il y a peut-être peut-être une volonté d'aller vers un même destin, c'est possible, mais le même peuple, les États en l'air sain déjà connaissent des clivages entre les populations qui les composent, a fortiori au-delà de leurs propres frontières. Donc je vois plus la devise comme un vœu que comme le reflet de la réalité.
Aux populations de l'AES, cette devise et ce logo sont censés inspirer un sentiment d'appartenance et de fierté. Le message dépasse même les frontières sahéliennes. Soumaïla Lah.
Le message est surtout envoyé à la communauté internationale, notamment à la CEDEAO, qui essaye de mettre son vatu pour que les trois États restent en son sein. Ce message est de nature à conforter, on va dire, les positions de ces autorités-là sur leur volonté de quitter la CEDEAO.
Enfin, une radio et une télévision officielles de l'AES seront accessibles sur Internet à une date qui n'a pas encore été annoncée.
David Bachet, vers des fêtes sous tension dans l'État de Benoué au Nigeria, une région frontalière du Cameroun dans l'est du pays, victime depuis 10 ans de violences répétées entre agriculteurs et éleveurs. Le jour de Noël, une attaque sur un village y a fait 15 victimes. Les officiels qui se sont rendus sur place en début de semaine ont appris que le bilan sur 5 mois s'élève à 75 victimes. Lisa Fabian.
Plusieurs officiels de l'État de Benoué ont fait le déplacement pour présenter leurs condoléances aux victimes de l'attaque sanglante survenue le jour de Noël. Le 25 décembre, juste après la messe, une dizaine de villages du district de Kwande ont été attaqués simultanément par des hommes armés. Ceux-ci ont mis le feu à des lieux de culte chrétiens et aux bureaux de l'administration locale. La seule école secondaire de la zone a également été saccagée. Au moins 17 villageois auraient été tués, mais il est difficile d'établir un bilan fiable, car plusieurs hameaux isolés sont toujours occupés par les assaillants. Cette attaque aurait en outre provoqué la fuite de près de 3000 personnes ces derniers jours. Les chefs de village ont dénoncé un vide sécuritaire dans cette zone. Pourtant, des informations concernant l'attaque à venir avaient été transmises aux autorités selon eux, mais sans qu'aucune mesure ne soit prise. Depuis, le gouvernement de l'État de Benoué a promis des patrouilles près de la frontière avec le Cameroun, mais les hommes qui seront déployés dans ce secteur doivent d'abord passer par une phase d'entraînement.
RFI, il est 18h41 à Dakar, moins de 3h30 donc avant que la capitale sénégalaise n'entre dans l'année 2025. Et qui dit 31 décembre dit feu d'artifice et pétards au Sénégal, une tradition bien ancrée dans les habitudes des Sénégalais, comme a pu le constater ce matin notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina.
Dans le quartier de Ngor, depuis hier, il n'y a pas un rond-point, un bord de route ou une sortie de supérette où les vendeurs de feux d'artifice ne sont pas installés. L'étal d'Admindao est un gros sac de sable dans lequel il a planté des fusées qui dépassent pour certaines les 50 cm.
Tout le monde accède, les parents, les enfants, tout ça. Il y a pétale festival, il y a petit, il y a grand, ça a 60 000, ça a 5 000. Ça a 1000 francs, 200, c'est autorisé pour le fête, il n'y a pas de problème.
Avec ses amis, Assini, 15 ans, a déjà prévu les stocks de pétards pour ce soir, inimaginable de faire sans.
En fait, moi, sans pétards, moi, je fais de quoi. Le plus souvent, on prend des boules de feu. C'est des longs bâtons et il y a des boules de feu qui sortent. On fait des guerres de pétards partout. Bon, pas dans les maisons, mais partout dans la rue. Et on s'amuse avec les amis.
S'amuser, mais aussi partager cet esprit de fin d'année si particulier, insiste René Paul.
Dès le bas âge, mon papa il m'achetait des feux d'artifice pour les Noëls et la fête de fin d'année notamment. Et j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec cet esprit. Et c'est un moment qui profite à tout le monde pour renouer les alliances, l'esprit de fraternité. On en profite pour partager ce moment ensemble.
Le tout en respectant les consignes de sécurité pour s'amuser et célébrer le passage à la nouvelle année sans danger. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Et la nouvelle année, c'est donc dans 3 heures à Dakar. Et il ne vous reste plus que 2 jours pour aller découvrir cette belle exposition, cette fois à Antananarivo. Elle raconte l'exil des Mikéa, un peuple de chasseurs-cueilleurs du sud-ouest de Madagascar, victime du défrichage de leur environnement naturel. Guillaume Fabry s'est rendu pour RFI à cette exposition.
Autour du feu, le soir, en chantant, les Mikéa se remémorent leur vie d'avant, explique le photographe Andy Rasoulavoun. En quittant la forêt, ils ont dû s'adapter à de nouvelles pratiques.
Quand ils étaient dans la forêt, ils mangeaient beaucoup de tubercules, des petits animaux comme des hérissons, des oiseaux. Maintenant, l'élevage leur sert à vendre des animaux pour racheter des aliments. Le fait de sortir de la forêt les force à utiliser par exemple l'argent. Et c'est aussi pour faire les papiers par exemple, faire les actes de naissance, chose qu'ils n'utilisaient pas avant.
Originaire d'Antananarivo, Emmanuel Razavin-Jakoutou s'est mariée avec un notable traditionnel Mikéa et vit dans la communauté depuis 9 ans.
Les anciens et les adultes ont beaucoup de nostalgie de leur ancienne vie en forêt. Il faut savoir que la culture d'un peuple va de pair avec son habitat naturel. Les Mikéa furent forcés de se sédentariser. Avant, ils étaient semi-nomades, mais se déplaçaient dans la forêt. Mais maintenant, mon mari Tivaour a décidé d'enseigner aux enfants la culture Mikéa. Nous l'avons intégré dans le programme scolaire de l'école du village. Il emmène les enfants en forêt pour qu'ils apprennent tout ce qu'un Mikéa doit savoir.
Malgré les bouleversements qu'ils subissent, les Mikéa espèrent, grâce à cette transmission, que leur culture ne disparaîtra pas. Yann Fabrian, Tananarive, RFI.
Et puis avant de se projeter sur 2025, la rédaction des sports continue de vous faire vivre les moments marquants de cette année sur le continent. Retour ce soir sur une des plus belles pages de football de 2024, le sacre des éléphants lors de la CAN en février dernier. Une épopée que nous fait revivre Sofiane Amazian.
Au coup de sifflet final, difficile de trouver les mots justes pour qualifier le parcours des Ivoiriens dans leur CAN, inoubliable. Favoris avant le tournoi, implosion en phase de groupe et le départ de Jean-Louis Gasset juste après le dernier match de poule contre la Guinée équatoriale perdue 4-0, puis l'Union Sacrée. Autour d'un nouvel homme fort émerse Faé jusqu'au sacre, des montagnes russes d'émotions, résumées par Guy Demel, entraîneur adjoint des éléphants.
Il y a des bons moments, il y a des moments un peu plus difficiles, mais en soi c'est un parcours mémorable. C'est comme on dit, la finalité est magnifique, mais le parcours a été incroyable, donc il y a beaucoup de choses que nous gardons.
Tombeur d'abord des champions en titre sénégalais en 8e de finale, les Ivoiriens ont retrouvé de l'appétit auprès de leur public, le Mali, la RDC, puis le Nigeria en finale battu 2-1 à Ebimpe. L'ouragan ivoirien était lancé, Guy Demel se remémore le jour du sacre, le 11 février dernier.
Le stade a été envahi, la cérémonie de remise de trophée, la parade, et donc tout est un peu irrationnel, tout un peu tellement fort, donc on n'était pas encore en possibilité de pouvoir absorber, réaliser.
La Côte d'Ivoire au 7e ciel pour une 3e étoile, la 4e est dans le viseur au mois de décembre prochain au Maroc pour ne pas redescendre de son nuage.
Il est 18h46 en temps universel.
Afrique Soir, Pierre Boudias.
Et Afrique Soir, ça continue en musique ce mardi 31 décembre oblige. En Afrique du Sud d'abord, où la fête devrait être rimée avec Amapiano, un genre musical au croisement de l'électro et du jazz devenu incontournable dans le pays. Rencontre dans un instant avec une des étoiles montantes de cette scène d'un nouveau genre, le DJ Msongi. Et puis chez RFI, nous avons notre DJ à nous, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, sera avec moi en studio et nous livrera ses pépites pour étoffer vos playlists à quelques heures du décompte final de cette année 2024. Il est 20h45 à Pretoria. Et les plus motivés ont sans doute déjà commencé à danser ce soir dans les rues de la capitale sud-africaine. De Pretoria à Johannesburg, il y a un type de sonorité qui vont résonner toute la nuit, celle de l'amapiano, un genre d'électro sud-africain hérité de la fin de l'apartheid et qui a désormais une renommée mondiale. Rencontre ce soir avec une des étoiles montantes, Msongi, artiste au succès fulgurant à seulement 23 ans, plus de 6 millions de vues sur son dernier clip après seulement un an de carrière. Notre correspondant Valentin Hugues a poussé la porte de son studio à Pretoria.
C'est dans un petit studio en face de la chambre que la magie opère.
Je commence avec les accords, ça donne ça. Puis j'ajoute les basses, les percussions, et enfin l'élément principal de l'amapiano, la boucle de batterie. Et puis on mixe le tout. Ce projet, par exemple, c'est une idée que j'ai eue l'autre jour. Alors j'ai pris mon téléphone pour chanter la mélodie. Les gens me prennent pour un fou à faire ça. Puis j'ai couru au studio pour en faire une musique. C'est aussi comme ça que j'ai composé Cola.
Cola, c'est la musique qui a changé sa vie, avec un clip qui dépasse les 6 millions de vues et un nombre incalculable de partages sur les réseaux sociaux. Une musique qui prône le pardon, même envers ceux qui nous ont fait du mal, et l'occasion pour Msongi de diffuser des messages positifs.
Et grâce au succès, je peux enfin faire ce que j'ai toujours voulu faire, aider le plus de gens possible. Avec mon énergie, je crois que je contribue à soigner leurs blessures.
Pour être ce messager, comme il aime se qualifier, et son succès lui en a donné l'opportunité. Une destinée heureuse jusqu'à la manière dont il a rencontré son manager Lucky. Lucky, chanceux en anglais, et ça résume plutôt bien ce moment.
Je lui ai envoyé un message pour qu'il me rejoigne à Pretoria parce que je voulais m'occuper de sa carrière. Et il m'a répondu, mec, je m'installe justement à Pretoria pour mes études de musique. Alors là, je me suis dit, c'est parfait. Voilà comment tout a commencé. J'ai vu qu'il était différent, original, il ne copie personne.
La recette de Msongi pour ne ressembler à personne, c'est justement de mélanger toutes les musiques qu'il a écoutées depuis qu'il est enfant.
Ma musique, c'est tout simplement un grand mélange de toutes mes inspirations. Et ça donne une photo de qui je suis, moi, Msongi.
Ses rêves à présent continuent à toucher un public plus large en mélangeant de plus en plus de langues pour s'exporter un jour à l'international. En attendant, pour le passage à la nouvelle année, le jeune prodige jouera au sud du pays, dans sa province natale. Valentin Hugues, de retour du studio de Msongi à Pretoria, RFI.
Et Valentin Hugues, merci, la main piano parfait pour démarrer votre soirée du réveillon en ce 31 décembre. Et une date qui n'aurait pas pu mieux tomber que le jour où l'ambianceur d'Afrique Soir est avec nous dans ce studio. C'est évidemment Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Pierre, on aurait dû se mettre sur nos 31, dis donc.
C'est vrai, mais on va découvrir ensemble vos toutes dernières recommandations afro-urbaines de l'année 2024. Elle a été riche en bonne musique à travers le continent, à commencer par le chanteur nigérian Asake et son album étincelant Lungu Boy.
Et un album de 15 titres qui a littéralement perturbé les auditeurs par son extrême variété de compositions, de mélodies, de paroles et de personnalités. Oui, de personnalités, car Asake a enregistré pas moins de 5 collaborations avec Wizkid, Ludmilla, Central C, Stormzy et Travis Scott. C'est avec ce dernier qu'Asake a écrit d'ailleurs Active. Forcément, vous l'avez entendu partout durant les grandes vacances, n'est-ce pas, Pierre ?
Oui. Et oui Hervé, on se souvient évidemment de ce morceau du Nigérian Asake. On enchaîne à présent avec la chanteuse ougandaise Azawi qui réalisait au mois de février sa chanson à succès Massavu.
Oui, en effet, Azawi n'est pas passé inaperçu avec sa chanson Massavu qui a été l'objet d'une polémique à cause d'une intelligence artificielle. Alors, une première version de la chanson avait fuité sur internet. On entendait la voix du chanteur Mosé Radio, décédé en 2018. Évidemment que cela semait le doute sur le véritable interprète du morceau, obligeant l'équipe de Swangs Avenue, le label d'Azawi, à réagir en publiant une version a cappella du morceau avec la voix d'Azawi cette fois.
Azawi, le doute n'est plus permis. Au Sénégal, c'est la jeune prodige Diela qui s'est illustrée avec son deuxième single de l'année, Doflo Ngama.
Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que Diela a fait sensation au Sénégal avec Doflo Ngama. Pour une chanson qui ne sortit qu'au mois de juin, elle est devenue virale très rapidement et la chanteuse sénégalaise a enchaîné les records d'écoute en ligne ou de streaming, comme on dit en bon français. Diela est sans aucun doute parmi les artistes sur qui il faudra compter en 2025. Ma belle yola, duke ne yola, do flow ngama. Man ki mata ne yola, ngano maraula, duke ne yola, do flow ngama. Ya moko tamal, ya moko janga, yow ni nga andal, do flow ngama. La khbilu mo tanga tanga, kendo moko racha, linga jantal, do flow ngama.
S'envole de l'autre côté de l'Atlantique. Maintenant, sur le continent américain, c'est le phénomène Iggy Marley qui s'est illustré avec la chanson Vais-je y arriver, Praise Jah in the Moonlight.
Oui, alors c'était simplement le morceau reggae le plus populaire de l'année. L'héritage de Bob Marley est bien une affaire de famille, puisque YJ Marley, dont le vrai nom est Joshua Marley, est non seulement le petit-fils de Bob, et il est le fils de Miss Lauryn Hill. L'ex-chanteuse des Fugees a d'ailleurs coécrit le morceau Praise Jah in the Moonlight. Notez que YG est le seul Marley qui n'a pas de locks. These roads of flame.
flames are catching a fire.
Pour conclure votre bilan de l'année, Hervé, direction le Burkina Faso avec le rappeur Smarty et la chanteuse Korka Dieng, célèbre choriste du rappeur sénégalais Didier Awadi.
Oui, tous les deux ont écrit le morceau « Ne parle pas ». C'est un peu la recommandation de l'année à venir d'ailleurs. On connaît Smarty et ses textes engagés. La chanson a été bien exploitée et le public s'y est retrouvé. Smarty appelle ceux qui veulent réussir leur vie à garder le silence sur leurs projets.
Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence se construit, et ta réussite fera du bruit.
Hey, ne parle pas de tes projets, avance dans le silence. Ne vois-tu pas tous les dangers, tiens la langue loin de la confiance. Tu parles trop de tes envies, t'exposes tes ambitions. Le lionceau qui fait trop de bruit devient une proie pour le faucon. Donc silence sur tes ouvrages, silence sur tes voyages. Sans rien dire, fais tes bagages vers le succès et ses ombrages. Protège-toi de tes paroles, elles n'attirent que des problèmes. Tu ne joueras pas de grand rôle si tu crois que tout le monde t'aime. Ne parle pas de tes projets.
Et c'est ainsi que s'achève votre dernière chronique de l'année, mon cher Hervé Mandina alias DJ Facemaker. Je rappelle que votre sélection est disponible sur notre site rfi.fr. Je vous souhaite une belle célébration et je vous dis à l'année prochaine.
Et bonne traversée à vous également, Pierre, et à nos chers auditeurs. Moi, je vous donne rendez-vous demain, ce 1er janvier, dans Afrique Midi. Et bonne soirée.
Et si vous restez à l'écoute de RFI, vous avez rendez-vous dans un instant avec Romain Ozoui, puisque Afrique Soir qui finit un peu en avance, pardon, ce soir, puisque le président français Emmanuel Macron va s'exprimer pour ses vœux de fin d'année. Merci à Sabine Mellet, Thomas Yayani et Steve Elsi qui ont préparé cette édition d'Afrique Soir.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Demain, l'éducation thérapeutique du patient. Pourquoi est-elle particulièrement recommandée en cas de diagnostic de maladie chronique? Jeudi, la listeria et les salmonelles. Comment se prémunir de ces bactéries? Quels sont les symptômes qui doivent alerter?
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.